La marge, c'est le nerf de la guerre pour tout investisseur immobilier. Alors quand on se lance dans une opération d'achat-revente, la question est cruciale. Quelle marge viser pour que ce soit rentable? Et la réponse est loin d'être évidente. 15%, c'est le seuil que certains recommandent. Et 20%, ça semble un peu plus intéressant, mais est-ce vraiment suffisant pour couvrir les risques? À 30% et plus, là, ça commence à devenir sérieux. C'est ce qui est venu expliquer Sylvain Turbet, marchand de main expérimenté, au micro du podcast de La Bonne Fortune lors de l'épisode 60. Il nous explique l'univers passionnant de l'activité de marchand de biens. Il revient en détail sur ses premiers flips et on analyse ensemble et en profondeur une opération d'achat-revente proposée sur lebonflip.com, la plateforme d'investissement collaborative. Et si tu veux en savoir plus, j'ai préparé une vidéo et un dossier complet avec tous les chiffres de ce flip immobilier en cours. Tu peux les télécharger depuis le lien que tu trouveras dans la description de cet épisode ou directement depuis lebonflip.com/vidéo. Et sans plus attendre, je te laisse découvrir cette nouvelle émission.
Quelque part, il y a comme une espèce de croyance populaire où si on devient riche, c'est au détriment d'un autre. Et vraiment, cette croyance-là, je voudrais vraiment aujourd'hui vraiment la casser en mille morceaux parce que c'est totalement faux. Donc on revient encore à la notion de liquide que j'évoquais au début. C'est le carburant que tu vas mettre dans ton véhicule qui va te permettre d'aller à la destination que toi t'as choisie en fait finalement. Le premier conseil que je donne souvent, avant même de commencer de parler de budgétisation, d'actifs, de passifs, c'est déjà de faire un état des lieux, donc c'est un travail assez personnel, assez intime, d'introspection sur ses croyances. Le titre du livre déjà, il brise déjà un premier tabou, il fait tomber un premier totem, une croyance, où on croit que tous les millionnaires, ils sont soit au soleil, dans la jet set ou je ne sais où. Non, les millionnaires, c'est le type ou la dame qui habite à un mètre de chez toi.
Hello et bienvenue à toi dans le podcast La Bonne Fortune, l'émission qui te donne les clés pour prendre en main tes finances personnelles. Je suis Ismaël Bernus, un entrepreneur heureux. Et avec La Bonne Fortune, mes invités se livrent sans filtre pour te donner les connaissances et les outils qui te permettent dès aujourd'hui de passer à l'action pour que tu puisses investir selon tes envies, selon tes choix et tes objectifs. Alors vous êtes de plus en plus nombreux à partager cette émission, je vous en remercie pleinement. Alors si toi aussi tu es nouveau par ici, je t'invite à t'abonner en un clic à ce podcast et à continuer de poser toutes les questions sur les différents réseaux. Mes invités et moi-même nous ferons un plaisir d'y répondre. Et sans plus attendre, je te laisse découvrir ce nouvel épisode. Let's go ! Mais aujourd'hui, sur le podcast, l'émission de La Bonne Fortune, j'ai l'immense plaisir de recevoir Bassem Mechri. Coucou Bassem.
Salut, ça va ?
Impeccable, mieux que ma fille qui, comme je te le disais, est un petit peu malade. l'une de mes filles qui est un petit peu malade ce matin, mais c'est les joies de l'automne, on se rapproche de l'hiver et donc. mais pour ma part, ça va vraiment en pleine forme. Je suis super heureux de te recevoir aujourd'hui.
Merci.
Car sur le podcast de La Bonne Fortune, j'ai eu le plaisir d'accueillir différents invités, tous extraordinaires. Alors des entrepreneurs, des fondateurs de bonnes boîtes, etc., des experts sur tel ou tel domaine d'investissement. Et là, on va faire une émission un petit peu différente, où j'aime bien sortir un petit peu des sentiers battus. Tu vas avoir l'occasion de te présenter, Bassem, mais comme tu le disais, tu te qualifies de chasseur de trésors. C'est rigolo, on en parlait un petit peu juste avant.
Oui.
Donc, Bassem, tu es entrepreneur, tu es également formateur, coach sur l'entrepreneuriat également.
Ouais.
Et tu as aussi la particularité donc d'avoir une maison d'édition, donc Frégate Édition.
Tout à fait.
Et tu es donc le traducteur du livre « The Millionaire Next Door ». On va en parler un petit peu. Donc, les surprenants secrets des riches américains. Le thème de cette émission, peut-être on pourrait le qualifier en deux questions. Peut-être comment devenir millionnaire, c'est peut-être pas forcément le bon angle, la bonne question, on aura l'occasion d'en parler, mais surtout, quel est le train de vie d'un millionnaire? Quel est l'état d'esprit d'un millionnaire? Quelles sont les pratiques et les bonnes pratiques des millionnaires? Alors, millionnaire, tu auras l'occasion d'y revenir, on parle de gens, d'une certaine richesse, etc. Mais voilà, c'est vraiment pour donner le tempo. En quelques mots, Bassem, après cette petite introduction, donc comme je le disais, tu te définis comme un chasseur de trésors, ça m'a fait sourire. J'adore. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour celles et ceux qui nous écoutent afin qu'ils puissent te découvrir?
Ouais, bien sûr. Alors, je te remercie pour ton invitation. C'est super cool de ta part. Alors moi, je suis professeur en école de commerce, en entrepreneuriat, business plan. J'ai plusieurs écoles de commerce en région parisienne. Et à côté de ça, j'ai des activités dans l'édition. Et donc, j'ai créé une maison d'édition qui est spécialisée uniquement dans les finances personnelles parce que je trouve que les maisons d'édition autres que mes confrères, en fait, ne sont pas spécialisées dans ce domaine-là. Il se peut qu'ils puissent éditer des livres de finances personnelles, mais à côté de ça, ils vont faire du développement personnel, ils vont parler des huiles essentielles, ils vont parler de problèmes de santé, des solutions de santé, des solutions de psychologie, psychothérapie, etc. Et moi, j'avais vraiment à cœur de vraiment créer une chaîne de production qui est vraiment totalement intégrée et 100% finances personnelles. Ça permet de nous spécialiser, de nous démarquer, et d'imposer et d'apposer notre signature dans le milieu, dans le monde de l'édition, dans ce domaine-là où la France et le monde francophone, on pêche un peu, on est un petit peu en retard sur ces thématiques-là et on essaie de rattraper notre retard à travers l'édition de livres comme Millionnaire Next Door, justement.
C'est vrai que oui, les finances personnelles, tu dis la France, on a peut-être un petit retard. Ouais. C'est sur l'ensemble de la culture, de l'éducation financière au sens large. Oui. En tout cas, moi, c'est l'idée du podcast, comme d'autres qui tiennent des blogs également, etc. C'est justement de faire évoluer un petit peu les consciences dans son ensemble. Et on peut noter, c'est vrai qu'on passe tout un tas de temps dans notre vie professionnelle, dans notre vie familiale, bien sûr, dans nos loisirs, etc. Et peut-être que les francophones, d'une certaine façon, passent un petit peu moins de temps à s'occuper un petit peu de leurs finances que peut-être des Américains ou autres. Je sais pas, hein, c'est une question que je te pose. Oui. Et d'ailleurs, je te laisse y répondre. Et si oui, ça vient d'où historiquement?
Je pense que ça vient de l'héritage de la société. Ça vient déjà, il y a un héritage religieux, sachant que dans la religion catholique, dans la chrétienté, il y a une sorte de vœu de pauvreté qui est fait par tous les ecclésiastiques, c'est-à-dire les moines, les évêques, etc. Donc il y a vraiment un vœu de pauvreté. Donc si on veut devenir riche, quelque part, il y a comme une espèce de croyance populaire où si on devient riche, c'est au détriment d'un autre. Et vraiment, cette croyance-là, je voudrais vraiment aujourd'hui la casser en mille morceaux parce que c'est totalement faux. D'accord ? Quand on devient riche, c'est le message que je veux apporter, c'est qu'on apporte de la valeur à quelqu'un d'autre. C'est qu'on va l'aider à trouver une solution. Ça se fait pas au détriment d'une autre personne. Alors peut-être effectivement que d'un point de vue macroéconomique, il y a effectivement, dans le monde capitaliste, il y a un système de concurrence entre différentes entreprises où les marchés sont plus ou moins préemptés, mais entre la relation entre le client, le consommateur et l'entreprise, c'est toujours une relation, pour moi, de valeur ajoutée. Parce que si t'as pas cette valeur ajoutée, tu restes pas, tu vas ailleurs et tu essaies de trouver ton bonheur ailleurs, justement.
Ouais.
Donc je crois que il y a une question où il y a tout cet héritage judéo-chrétien un petit peu où c'est mal, l'argent c'est pas bien, c'est sale. Quand on voyait encore il y a pas longtemps les patrons comme des espèces d'escrocs, de voleurs, etc. Bon, il y a Bernard Tapie qui nous a quittés il n'y a pas très très longtemps, donc il avait toujours cette image un petit peu de bidouilleur, d'escroc, tout ça. Et c'est resté dans le carcan populaire. Et ça perdure, ça c'est comme une espèce de croyance, de pensée qui se transmet comme ça à travers les générations. Et ça n'a pas lieu d'être. Chaque entrepreneur, il va créer quelque chose pour le bien des autres. Il va essayer d'apporter quelque chose aux autres. Et au passage, c'est ce que j'enseigne à mes étudiants en école de commerce, il va, vulgairement, toucher sa commission. Il va toucher son bénéfice, son pécule. C'est normal, puisqu'il a fait un effort. Donc, tout travail mérite salaire. Donc, pour moi, c'est tout à fait logique.
Cette culture est bien présente. Et comme tu le dis, il y a certaines idées préconçues. Encore une fois, c'est également le but de cette émission, c'est justement de casser ces tabous, de casser ces idées préconçues, de casser ces croyances limitantes, en quelque sorte.
Bien sûr.
Ou, comme tu le dis, on entend beaucoup, les riches sont des salauds, je vais reprendre un petit peu les propos.
Bien sûr.
Et dans le thème de l'actualité, tu évoquais Bernard Tapie, mais il y a également, dans l'actualité récente, on voit le scandale des Pandora Papers, où on voit certaines pratiques qui ne sont pas, on va dire, très, très... éthique, très très morale, et peut-être que ça renforce un petit peu toute cette idée, sachant que, encore une fois, et ça va faire rebondir sur ma prochaine question,
à mes yeux, quelqu'un qui a un mauvais fond, qu'il a de l'argent ou pas, restera un connard, pour parler gentiment. Ouais. Mais avec de l'argent, il va peut-être démultiplier un petit peu ses bêtises, etc.
Bien sûr.
Pour toi, c'est quoi l'argent? Ça représente quoi l'argent? Ça sert à quoi l'argent?
L'argent, pour moi, si tu veux, c'est une force. C'est comme ça que je le vois. C'est une force matérielle qu'on pourrait associer à comme de l'eau pour matérialiser ça. D'ailleurs, dans le langage courant, on dit bah tu me payes en liquide. Donc tu me payes en cash, tu me payes en espèces, tu me payes en liquide. Donc il y a vraiment cette notion d'eau dans le sens pourquoi j'utilise l'image de l'eau, c'est pas du tout gratuit, c'est pas du tout hasardeux de ma part, c'est que l'argent d'ailleurs la théorie politique qu'on a entendue récemment, c'était comme par hasard la théorie du ruissellement. Donc qu'est-ce qui ruisselle? Bah c'est de l'eau à ma connaissance. Donc c'est vraiment de l'eau dans le sens où l'argent va dans les poches de celui ou celle qui est capable de l'attirer. Donc il y a ce truc attractif, d'attraction, et donc qui est capable donc de générer une force d'attraction qui va il va pouvoir en capter un maximum.
On parle souvent de fluide, d'énergie, de fluide également. Oui.
Totalement, de fluide, d'énergie, de feeling, d'échange. Donc tout ça, ça fait partie. Donc pour moi l'argent c'est une force. Quand t'as pas lu de livre de finances personnelles ou que t'as pas des parents qui sont issus de la bourgeoisie ou qui sont riches ou qui t'ont donné un héritage, pour moi, les finances personnelles devraient être enseignées à l'école, peut-être dès la sixième, jusqu'en terminale, dans une forme plus ou moins pédagogique avec des tableaux financiers, des budgets. Mais ça, c'est mon opinion à moi. On devrait former les classes populaires à ça pour qu'ils puissent ensuite gérer leur budget. Pour revenir à ta question, qu'est-ce que l'argent ? C'est une force obscure. Dans le sens où si t'apprends pas ce que c'est, bah c'est une force qui va te dépasser toute ta vie. Tu vas dire mais je comprends pas pourquoi lui il est en Ferrari, moi je suis dans le métro. Pourquoi lui il peut se payer des vacances aux Maldives et puis moi je suis bloqué chez moi, je peux pas bouger. Donc c'est quelque chose, il y a quelque chose comme une sorte d'horizon indépassable que si tu maîtrises pas cette force-là, bah toute ta vie tu vas te sentir dépassé, tu vas te sentir déclassé et tu vas te sentir peut-être pas aussi bien que tu pourrais l'être, en fait, finalement. Et l'argent, en dernier ressort, ce n'est qu'un moyen. C'est jamais une fin en soi. C'est un moyen pour faire d'autres choses. Donc, moi, je perçois pas personnellement l'argent comme étant une fin. Si tu veux, si par exemple demain, j'ai 100 000 euros sur mon compte, je vais pas me dire, ouais, comment je vais claquer tout ça? C'est génial. Non, je vais dire, qu'est-ce que je vais investir? Où est-ce que je vais pouvoir les placer? Après, peut-être on parlera de ça tout à l'heure. Donc, pour moi, c'est vraiment le carburant. Donc, on revient encore à la notion de liquide que j'évoquais au début. C'est le carburant que tu vas mettre dans ton véhicule qui va te permettre d'aller à la destination que toi, t'as choisie, en fait, finalement.
On va revenir un petit peu sur ton livre que j'ai eu le plaisir, parce que j'en ai déjà entendu parler, mais 100 000 fois, The Millionaire Next Door.
C'est un classique.
Il a été vendu à des millions d'exemplaires, ouais. Mais la problématique qu'il y avait jusque, si je dis pas de bêtises, 2019, c'est qu'il était exclusivement en anglais. Et donc, des personnes comme moi qui... J'ai quelques petits bouquins en anglais, mais... Je t'avoue, sans aucune honte, que je suis vraiment une bille. mais j'aime, parce que même la lecture en anglais, j'aime parce que ça me permet d'apprendre un petit peu aussi, etc., etc. Mais de temps en temps, c'est un petit peu compliqué, la concentration, etc.
Ouais.
Et le fait de l'avoir disponible en français, je ne savais pas qu'il était traduit encore, tu vois, récemment. Et quand je l'ai su, quand on a préparé cette émission, donc je me suis naturellement empressé pour aller le commander. Sur la Fnac, et donc du coup, comme je te le disais, donc j'ai pris plaisir à y lire déjà une bonne partie du livre, et puis la fin que j'ai pas pu lire, je l'ai feuilleté en diagonale aussi pour vraiment okay. être prêt et faire mes devoirs pour dans le cadre de cette émission. et du coup, dans ce livre, je vais te laisser expliquer. Qu'est-ce qu'on y retrouve? C'est pas un livre, on va dire, comme les autres, j'ai envie de dire, où on va dire, tiens, comment devenir millionnaire? Ma question préalable de tout à l'heure, c'est pas tout à fait ça, c'est un petit peu différent, c'est un autre angle, c'est plus une approche d'étude de la méthode. Qu'est-ce qu'on y retrouve dans ce livre, The Millionaire Next Door? D'ailleurs, qu'on pourrait peut-être traduire Mon voisin millionnaire.
Oui, ou Le millionnaire d'à côté, pour faire une traduction littérale. Juste une petite parenthèse sur le titre avant de répondre à ta question.
Je t'en prie.
Volontairement choisi ainsi pour justement désacraliser ce statut de millionnaire, pour dire qu'en fait tout autour de nous, autour de toi, Ismaël, autour de chez moi, nos voisins, potentiellement, il y a des millionnaires. Donc justement, rien que le titre du livre, déjà, il brise déjà un premier tabou, il fait tomber un premier totem, une croyance, où on croit que tous les millionnaires, ils sont soit au soleil, dans la jet set, ou je ne sais où. Non, les millionnaires, c'est le type ou la dame qui habite à un mètre de chez toi, qui est vraiment ton voisin. Donc il y a vraiment cette notion déjà. Donc c'était déjà pour ramener les choses à une certaine horizontalité, tu sais, et sortir de cette verticalité où on est dans un rapport de classe où soit t'es bourgeois, soit t'es prolétaire. Donc pour sortir de ce vieux schéma un peu ringard, un peu vieillissant qu'on a hérité du 19e siècle avec je vais pas faire de politique tout ça, mais bon, tu vois ce que je veux dire. Donc déjà le livre, il inverse les choses. On passe d'une verticalité où on se dit devenir riche c'est impossible. Ou peut-être mes enfants, mes petits-enfants feront ce que moi j'ai pas pu faire dans ma vie professionnelle. Le livre, justement, il prend cette verticalité et il la met à l'horizontale, il dit non, à côté de chez toi, il y a des millionnaires. Donc si il y a autre chose aussi dans ça, c'est que si eux l'ont fait, il n'y a pas de raison que toi tu le fasses pas. Donc vas-y, bouge-toi, fais les trucs que moi je vais dire dans le livre. Tu vois, et là j'en suis qu'au titre, tu vois.
Exactement, ouais, super, super, belle introduction sur ce titre du livre. Et encore une fois, je te rejoins pleinement. J'ai eu le plaisir d'accueillir encore une fois tout plein de personnes sur ce podcast et beaucoup d'entrepreneurs, comme je te le disais, et pour beaucoup d'entre eux, sont millionnaires, que ce soit de par leur entreprise, pour beaucoup, la valorisation de leur entreprise, mais les investissements qu'ils ont pu faire à droite à gauche, l'immobilier, etc., les cryptos, la bourse, peu importe. Et pour beaucoup, sont millionnaires. À titre personnel, j'y aspire également, non pas comme une fin, comme tu le disais, mais comme un moyen pour faire tout plein d'autres choses. On pourra en discuter si tu veux, mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Mais être millionnaire, pour définir encore une fois, d'une part, dans le cadre du livre, c'est de dire, bon, voilà, quelqu'un de riche, de désacralisé, comme tu dis, de casser cette image, mais être millionnaire aujourd'hui, est-ce que c'est avoir 1 million d'euros sur son compte? Est-ce que c'est avoir un patrimoine immobilier, entrepreneurial, d'investissement d'actifs qui vaut 1 million? C'est quoi être millionnaire pour toi, Bassem?
Pour moi, à titre personnel, être millionnaire, c'est vivre dans l'indépendance financière. C'est-à-dire que t'es pas obligé d'aller travailler pour gagner ton salaire. Tu as assez de revenus passifs, pour ne pas être trop technique, pour rester simple. Tu as assez de revenus passifs, donc si tu veux des rentes, en fait, t'es plus salarié. T'es comme une sorte de rentier où tu as des actifs qui travaillent pour toi. Donc en fait, si tu veux, pour reprendre un vieux pensif de Robert Kiyosaki, tu travailles pas pour l'argent, mais tu fais travailler l'argent pour toi, en fait, si tu veux. Donc pour moi, être millionnaire, c'est pas une somme, si tu veux, c'est pas 800 000, 900 000, 1 million, 1 million 2. C'est se réveiller le matin et se dire, en fait, j'ai pas besoin d'aller travailler. J'ai des actifs en immobilier, j'ai des actions, j'ai de la crypto, j'ai une franchise, j'ai des employés, j'ai des salariés, si tu veux, ou j'ai des actifs autres, ça peut être des... J'ai écrit un livre et ce livre génère des droits parce qu'il se vend sur les plateformes, qui font que chaque jour, je gagne temps, donc j'ai pas besoin de travailler, je peux me libérer pour mener la vie dont moi j'ai envie, de mener la vraie vie, en fait, d'aller au restaurant, de faire pas des trucs de dingue non plus, hein, mais de faire du sport, mais rien que le fait aujourd'hui de disposer de son temps comme on l'entend, c'est déjà un luxe, mais tu te rends pas compte. C'est énormissime. Et quand tu vois les gens qui sont obligés de travailler de 9 à 17, je les critique pas, c'est très bien, il faut que des gens le fassent. Mais à côté de ça, atteindre l'indépendance financière, je pense qu'il est préférable d'atteindre l'indépendance financière que d'être milliardaire. Parce que si tu es milliardaire et que tu dois gérer un groupe avec 8000 salariés, tu restes quelque part comme toi-même étant un salarié parce que t'as une responsabilité éthique par rapport à ce groupe et t'es obligé de rendre des comptes à des actionnaires, à des investisseurs, à des banquiers, à l'administratif, à l'URSSAF, machin bidule. Moi, je préfère quelqu'un, il se contente une certaine somme, à chacun d'apprécier cette somme-là, ok? Parce que là aussi, il faut laisser la discrétion à chacun de juger ce dont il a besoin. On peut pas dire aux autres, il te faut tant, ou il te faut pas tant, ou il te faut le minimum, tout ça. À chacun d'apprécier selon le mode de vie, le lifestyle qu'il souhaite mener. Pour certains, être millionnaire, il faut absolument avoir le yacht immense, machin. Pour d'autres, c'est juste avoir l'indépendance, de voyager, d'avoir son temps, de vivre une vie c'est déjà être riche quelque part.
Exactement, ouais, je partage, et encore une fois à titre personnel, où moi Bassem, je sais pas si tu le sais, mais j'ai démissionné il y a 2 ans, j'étais sapeur-pompier pendant 15-16 ans, et suite à une volonté de revenir m'installer dans ma région à côté de Poitiers, où si tu veux j'étais pompier et à Paris et dans le Nord, et de vouloir revenir à Poitiers où c'était bloqué de par des mutations, etc., de par le travail, bah, en quelque sorte j'ai trouvé une autre voie, notamment à travers l'investissement, qui m'a permis, et notamment immobilier, et pas que, mais qui m'a permis de switcher, de poser ma démission, et aujourd'hui de vivre en quelque sorte un peu des revenus, notamment avec la courte durée, etc., mais vraiment pas que, et qui me donne cette certaine, d'une part, liberté aujourd'hui géographique, où j'ai fait ce choix, et également cette liberté de temps, qui, comme tu le disais, n'a pas de prix, et donc tu t'organises un petit peu comme tu veux. Aujourd'hui, je te parlais de ma fille qui est malade, et quel plaisir de pouvoir être là sans se poser de questions. Faut que je rende des comptes à mon employeur, prendre un enfant malade, etc., etc. Et du coup, ça c'est vrai que je te rejoins en ce sens où ça n'a pas de prix. Bon, maintenant, je dois encore, à titre personnel, et puis après, on va passer là-dessus, mais développer les revenus, heureusement que j'ai des besoins limités, mais par contre, je passe mon temps à développer, si tu veux, les actifs, différents actifs, différentes sources de revenus, pour, en quelque sorte, atteindre un petit peu la liberté financière que tu viens de décrire, et d'être en quelque sorte également à mon tour peut-être un futur millionnaire pour le coup. Qu'est-ce qu'on retrouve dans ce livre? Quel chemin je dois prendre? Qu'est-ce que je dois faire, Bassem? Je te pose la question pour moi, mais bien entendu, c'est bien sûr pour tous les auditeurs, les auditrices qui nous écoutent.
Alors, en fait, je vais d'abord t'expliquer la méthodologie du livre, et après j'expliquerai pour toi et pour nos auditeurs et les auditrices. Première chose, donc en fait, les deux auteurs de Millionaire Next Door sont deux universitaires. Et donc, qui dit universitaire, dit il faut que la méthodologie elle soit vraiment carrée. On peut pas partir sur des hypothèses ou sur des thèses farfelues ou pas démontrables. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Première chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont travaillé avec une troisième personne qui est issue de Harvard. Donc, on est au milieu des années 90, on est en 1996, okay, pour être tout à fait précis avec toi. Et ils ont, on est avant l'avènement d'Internet. Enfin, Internet existe déjà, mais pas comme aujourd'hui. Et en fait, ils ont créé un outil comme une sorte d'algorithme qui permet de géolocaliser les millionnaires. D'accord? Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait un programme informatique où ils ont matché les données fiscales, mm-hmm, les données géographiques, les données patrimoniales. Et en fait, ils ont reconstitué, si tu veux, sur la carte des États-Unis, en se posant une question, mais basique, tu sais, c'est où vivent les riches? Les riches, alors, pour eux, les riches, c'est une personne qui possède minimum $1 million, parce qu'il faut, à un moment donné, il faut quand même mettre une barrière quelque part, sinon on n'est pas précis. Donc eux, c'est $1 million de patrimoine. Que ce soit immobilier ou...
D'actifs nets, oui.
Donc $1 million, t'es riche. D'actifs nets, après impôts, après taxation, après charges, tout ce que tu veux, t'as $1 million, t'es riche. Dans le livre, hein. Donc c'est un modèle théorique. Et là, leur grande surprise, donc c'est la première révélation du livre que je te fais là, c'est qu'ils se sont rendus compte que les riches, entre guillemets, les riches tels que nous on les a définis, c'est-à-dire à $1 million net, ne vivent pas dans les quartiers riches. Ils ne vivent pas à Beverly Hills, ils sont pas dans les beaux quartiers de New York, ils vivent au milieu de la classe moyenne. D'où le titre, donc je reviens encore au titre, Millionnaire Next Door, ça veut dire que les riches ne vivent pas avec les riches, contrairement à ce qu'on pourrait penser, mais ils vivent incognito au milieu de la classe moyenne, alors qu'ils possèdent un patrimoine qui est, on va dire, conséquent. Pourquoi? Donc la question, après à les avoir localisés, géolocalisés, c'est pourquoi? Parce que quand tu vis dans un quartier de la classe moyenne, t'as pas besoin d'avoir un lifestyle de dingue. T'as pas besoin de rouler avec une grosse berline, t'as pas besoin d'avoir 3 voitures garées devant ton garage, t'as pas besoin d'avoir une maison immense avec 40 chambres et 12 salles de bain, d'accord? T'as une maison normale, comme on peut le voir dans les séries, avec le petit jardin derrière, le barbecue, mais une vie standard, à l'américaine, avec la cuisine et tout. Mm-hmm. Et donc le fait déjà de ne pas avoir cette pression, entre guillemets, sociale, donc il faut quand même recontextualiser. On est aux États-Unis, donc c'est le pays de l'apparence plus. Donc, il faut vraiment que les gens se montrent, il faut que les gens voient que tu as la grosse montre à ton poignet, que tu as la grosse voiture, tout ça. Donc, on est vraiment dans le, comment dirais-je, dans le flashy, quoi. Il faut qu'on montre qu'on est là, quoi. C'est ça, quoi, là-bas. Et eux, ils se retirent cette épine du pied-là. Ils disent, moi, non, en fait, j'ai pas besoin d'avoir une Rolex pour me prouver à moi-même que j'ai réussi dans la vie. J'ai pas besoin, forcément, d'avoir une Tesla dernier cri à le modèle X à plus de 100 000 euros. Moi, plutôt les 100 000 euros, je vais plutôt les investir en actions Tesla. Et puis, probablement qu'en fin d'année, ça va peut-être prendre plus 35 ou plus 45% à la bourse, en valeur boursière. Donc, c'est vraiment des gens qui ont fait un choix de vie autre que celui qui nous est vendu dans les médias ou dans les séries ou à travers les stars qu'on peut voir, les stars de la musique ou d'Hollywood ou qui flambent tout le temps. On les voit maintenant sur les réseaux sociaux, tout ça. C'est vraiment des gens qui ont pris le contre-pied de ça, qui vivent dans une certaine frugalité. Et après, ça devient une sorte de mode de vie. C'est pas un mode de vie austère parce qu'il faut pas non plus aller à l'autre bout du spectre, mais c'est un mode de vie simple. Il y a pas beaucoup d'ego, il y a beaucoup de discipline, il y a beaucoup de rigueur. Ce sont des personnes qui passent 2 à 3 heures par semaine à faire leur compte, à refaire leur compte. Ça permet de tout, de sécuriser le périmètre, tu sais, de leurs finances pour pas déraper, pour pas faire des achats d'impulsion. Donc voilà. Donc pour récapituler les points que j'ai donnés, premièrement, ils ont été géolocalisés. Deuxièmement, on a établi que leur patrimoine était de 1 million. Et troisièmement, ce qu'ont fait les auteurs, c'est qu'ils ont, une fois qu'ils les ont identifiés, ils ont envoyé à 15 000 millionnaires un questionnaire de 250 questions. Et à partir des réponses qu'ils ont reçues, ils avaient une trame pour pouvoir identifier par des méthodes de sondage, donc de pourcentage, leur habitude d'achat, la carrière qu'ils faisaient, les valeurs qu'ils transmettaient à leurs enfants, puisque tu me parlais de tes filles, donc transmettre un héritage. Mais quand moi je parle de transmettre un héritage, même si là on est dans le monde des finances personnelles, ce n'est pas que financier. Ce sont des principes, ce sont des valeurs.
Bien sûr.
Ce sont des astuces, ce sont comme des sortes de secrets. Si tu veux, tu transmets pas que de l'argent. Heureusement d'ailleurs. Ce serait triste de donner juste un chèque à ton enfant et elle retiendra que ça de toi. J'espère qu'elle retiendra d'autres choses et qu'elle pourra se nourrir de ton parcours. Donc, à partir de ces réponses à ce questionnaire, il y a des sondages qui ont des techniques de pourcentage. Et c'est ce qui m'a plu dans ce livre Millionnaire Nexor. C'est pour ça que je l'ai choisi avec mon détecteur de métaux, avec ma petite boussole. C'est comme ça que je l'ai repéré. C'est que contrairement, je vais parler juste de deux autres livres pour juste faire le contre-pied, si tu veux, par rapport à des livres comme ceux de Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre, que tu connais certainement.
Oui, bien sûr, bien sûr.
Ou comme le livre de MJ de Marco, L'autoroute du millionnaire. C'est pas le témoignage d'une personne qui va te donner son expérience à elle sur l'argent. Pas du tout. C'est comme s'il y avait 15 000 millionnaires qui s'étaient réunis dans une salle et qui te disent, Ismaël, moi, je fais comme ça. Donc, vas-y, emprunte ce chemin-là parce que nous, on l'a déjà pavé pour toi. Ce chemin-là, il est déjà pavé et on est des milliers à l'avoir déjà accompli avant toi. Donc, ce chemin-là, il existe et vas-y, emprunte-le. Nous, on est déjà arrivé à nos destinations, si tu veux.
Ça fait une belle différence entre, comme tu dis, une personne, Kiyosaki ou MJ DeMarco, qui, lui, de son expérience, qui eux-mêmes sont millionnaires, peut-être même milliardaires, je ne sais pas, mais qui te disent, moi, j'ai fait comme ça, mais sauf que là, c'est de cette étude, c'est 15 000 personnes qui te disent, j'ai fait comme ça. Et donc, forcément, tu as une normalité, peut-être c'est la masse, et donc c'est peut-être plus, tu parlais d'accessibilité, en quelque sorte, de montrer la voie, et ça, c'est intéressant. Je voudrais reprendre sur quelques points, parce que tu as donné énormément d'éléments, mais très très riches. Bassem, merci. Donc, premièrement, une étude, donc sur du concret, des faits. Deuxièmement, donc géolocalisé, les personnes riches, millionnaires, vivent comme toi et moi dans des milieux classe moyenne, etc., et pas dans les quartiers les plus huppés, font donc attention en quelque sorte à leurs dépenses.
Ouais.
Ne crament pas leur budget, etc., d'être dans le bling-bling. Tu parlais, donc forcément, c'est une étude qui est au niveau des États-Unis. On pourrait quand même le transposer largement aux millionnaires occidentaux d'une certaine façon en règle générale et même français. Tu parlais de la mode du bling-bling aujourd'hui, des stars Hollywood, etc. Mais quand on voit même les joueurs de foot français, Mbappé, etc., suivre leur Instagram, c'est tout de suite les grosses maisons, piscines, voitures, etc. Et même des personnes inconnues qui aujourd'hui, on voit la révolution crypto. Il y a eu quelques enrichissements rapides dernièrement où il y a cette mode vraiment du bling-bling, des influenceurs sur Instagram, les réseaux sociaux, mais également même à la télé, en quelque sorte, on voit du bling-bling partout. il y a de la publicité qui est partout, faut consommer, faut montrer quelque part un petit peu pour beaucoup ça, cette richesse. Cette étude peut être transposée en France ou pas, Bassem?
Je dirais que les sociétés occidentales, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, sont, à part quelques particularités culturelles, sont presque identiques, en fait, si tu veux. Donc, il n'y a pas de souci, c'est totalement transposable. Le modèle est reproductible en France, sinon je ne l'aurais pas traduit. Si j'avais estimé que le modèle n'était pas transposable à la France, je me serais dit déjà, ça ne sert à rien de traduire, puisque les astuces qui sont dedans, les skills qui sont dedans, les secrets qui sont révélés, ils ne vont pas servir aux lecteurs francophones. D'autre part, j'attire ton attention sur le fait que le livre, il a été traduit en Inde, en japonais, en chinois, bien évidemment en Australie, en Afrique, donc en Amérique latine. Donc c'est vraiment un livre qui a fait le tour du monde. Hein, tu l'avais dit au début, c'est vraiment un grand classique. Et toutes les compétences qui sont défendues dedans, toutes les astuces, tous les secrets, bah tu peux les incorporer dans ton game à toi. Et ça va venir muscler ton jeu en termes d'entrepreneuriat, en termes d'investissement, en termes d'enrichissement mental, parce que le livre il a aussi un côté développement personnel. Tu sais, c'est pas juste parce qu'en fait là on te dit que les vrais riches ne sont pas ceux que tu crois, et que les tu vois, il y a comme une espèce de renversement de lumière, il y a un renversement de valeurs, et en fait ceux qui se paraissent riches ne le sont pas vraiment. C'est prouvé d'ailleurs avec la géolocalisation. Et ceux qui sont riches ne paraissent pas comme étant riches. C'est vraiment des mecs standards. Donc ils s'habillent vraiment. Mais vraiment, je te jure, tu les reconnais pas. C'est vraiment la personne de base, quoi. Vraiment aucun signe de richesse.
Monsieur tout le monde.
Monsieur, madame tout le monde qui fait ses courses avec le caddie et compagnie, quoi. Et je trouve quelque part c'est plus sain, tu sais, parce qu'on a trop sacralisé. Bah tu parlais des influenceurs d'Instagram. On les a mis sur un piédestal, et quelque part inconsciemment on se dit à nous-mêmes, mais en fait on sera jamais ça, on sera jamais des stars du foot ou de la musique ou d'Hollywood. Quelque part le livre il te dit, eh oh non non non, la richesse tu peux l'atteindre, c'est à ta portée, et ça c'est important.
En étant méthodique, tu le disais tout à l'heure, quelque chose qui m'a frappé dans ce livre et qui me conforte personnellement dans mes choix, mais sur les personnes qui écoutent l'émission, qui font le retour à chaque fois, etc., ce sont en tout cas les riches, des personnes aussi qui prennent du temps pour gérer leurs finances personnelles,
ah oui,
qui prennent du temps pour, entre guillemets, se former, qui gèrent un petit peu eux-mêmes aussi. Non pas qu'ils fassent pas confiance aux experts, etc., mais ils ne délèguent pas 100% de l'affaire.
Absolument.
Qui passent du temps à planifier, à investir. Donc, ils investissent forcément de l'argent, mais ils investissent du temps dans cette formation pour comprendre un petit peu les placements, utiliser les différents leviers, etc. On pourrait parler en France, hein, on a le levier du crédit bancaire, notamment pour l'immobilier. On a accès et de plus en plus facilement aujourd'hui la bourse, le private equity, les crypto-monnaies. Aujourd'hui, en deux clics, bien au chaud de son canapé, on peut être sur toutes les classes d'actifs quasiment disponibles qui s'offrent à nous.
Ouais.
Mais voilà. Mais ça m'a vraiment marqué. Ce sont vraiment des personnes, voilà, qui sont pour beaucoup de ces 15 000 personnes qui se sont construits d'eux-mêmes en une génération, et non pas des personnes qui ont hérité tout cuit, etc., etc. Donc il y a ces deux dimensions. Ce sont des personnes qui sont construites par eux-mêmes et qui passent du temps à s'investir.
Oui, là aussi c'est un fait. Tu fais là tu soulignes un point hyper intéressant et je te remercie pour ça. Ça aussi ça vient briser un petit peu le coup de ce que je disais tout à l'heure, donc dans cette lutte des classes où ceux qui sont en bas reprochent aux plus riches d'être dans la reproduction sociale, de se passer un petit peu les héritages entre eux et tout. Mais c'est vrai, c'est un fait. Il y a un système d'héritage, etc. Mais le livre il vient un petit peu tordre le cou à cette idée. Pour dire que le millionnaire next door type, tel que nous on le définit dans le livre, en fait il s'est fait tout seul, il s'est fait en une génération. Après il faut remettre les choses dans leur contexte, ça a été une génération de travail, une vie de travail, une vie de labeur, une vie de discipline, une vie de frugalité, comme tu l'as dit, une vie d'auto-formation sur ses finances, à investir chaque semaine 2-3, parfois peut-être même 4 ou 5 heures pour gérer ses finances. Et le fait de chaque semaine se poser dans son bureau, par exemple, je prends l'exemple du dimanche soir, et de regarder ses finances, de jeter un coup d'œil si on a un carnet à l'ancienne avec un crayon et tout, avec des colonnes, ou sur son smartphone, parce que maintenant il y a des applications, des logiciels gratuits, ça remet les choses d'équerre, ça remet les choses. Déjà, mentalement, on a les idées au clair, on sait combien on a dépensé, on sait où est-ce qu'on en est dans le mois. Ça nous donne un petit peu comme une espèce de tableau de bord, si tu veux, comme dans la voiture. On sait combien on a de carburant, à quelle vitesse on l'a roulé. Mm-hmm. Donc, on a un niveau de conscience financier qui est beaucoup plus évolué, qui est beaucoup plus ouvert que 99% des gens qui sortent au centre commercial, qui achètent comme des dingues et après ils font des crédits consommation pour rattraper et puis ils payent des taux d'intérêt à 20% et c'est le cercle vicieux. Ils s'en sortent jamais. Et quelque part, ils ont donné le bâton pour se rebattre, ces gens-là. Ils n'ont pas investi, ils sont pas formés. Quand je dis ils sont pas investis, je parle pas en termes monétaires. Ils n'ont pas investi sur leur propre connaissance. Ils n'ont pas investi sur leur savoir. Et puis, ils ont laissé leur pulsion les mener là où ils sont aujourd'hui.
Exactement. Donc, du coup, pour reprendre quelques bonnes pratiques, pour essayer de tendre vers ce modèle, à la limite, pour celles et ceux qui souhaiteraient devenir le prochain millionnaire d'à côté, il faut commencer donc à investir en soi sur la connaissance et l'éducation financière. Il faut commencer à maîtriser son budget, vivre en dessous de ses moyens. C'est un des thèmes qui revient aussi beaucoup. On va pas tout spoiler, tout dévoiler. Bien entendu, je mettrai avec grand plaisir à Bassem les différents liens pour pouvoir se procurer le livre dans les notes de l'émission hein, pour celles et ceux qui souhaitent l'avoir. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse sur le podcast de la bonne fortune. J'ai reçu pas mal d'invités. Donc, il y a Delphine Pinon qui, pareil, tient un podcast, etc. et qui mentionnait comme son livre vraiment préféré, coup de cœur, The Millionaire Next Door. Et par rapport à ça, on avait fait un épisode sur le minimalisme avec elle.
Okay.
Et donc, ça reprend, si tu veux, en quelque sorte, de vivre en dessous de ses moyens. Peu importe, tu parlais tout à l'heure de fixer des objectifs de niveau, de ce qu'on veut, mais peu importe le niveau, en fait, qu'on soit quelqu'un qui travaille, qui soit avec un revenu au SMIC, que ce soit quelqu'un qui soit avec un revenu un peu plus important, 3 000, 5 000, 10 000, un couple à 20 000 euros par mois, peu importe. Si on crame le budget, on est foutu. Et si on est en dessous, on peut placer aussi la différence. C'est aussi bête que ça. Vivre en dessous de ses moyens et investir la différence.
En fait, c'est simple à saisir, si tu veux. C'est simple à comprendre. Il y a même autre chose, en fait. C'est même encore plus, ça va même plus loin que ça, puisque ce que tu dis, c'est correct, c'est du bon sens. Mais j'ai le sentiment, après avoir lu, traduit le livre, édité tout ça, que les millionnaires next door, c'est comme si tu veux, t'avais, pour schématiser, c'est comme si t'avais une route à deux voies. Et soit t'as la voie du lifestyle, si tu veux. En gros, si tu veux, le mantra, c'est, profite de cette vie, t'en as qu'une, tu sais pas où est-ce que tu seras demain et tout ça, tu vois. Et eux, en fait, ils ont fait le choix de se dire non. Je vais d'abord favoriser mon indépendance financière. Je vais me libérer du salariat. Ça ne veut pas dire qu'ils arrêtent de travailler, mais si tu veux, chaque fois qu'ils mettent, je sais pas moi, 10 000 euros de côté. Pour eux, c'est autant de temps gagné dans un futur proche. Par exemple, il y a l'exemple d'une dame dans le livre qui fait ses comptes, qui fait ses comptes, qui fait ses comptes. Et elle fait tellement ses comptes chaque semaine qu'elle est capable, parce qu'aux États-Unis, c'est un autre système de retraite. Ce sont des retraites privées, ce sont des mutuelles privées. Donc, c'est un autre système où elle était capable de dire qu'elle partirait à la retraite à 57 ans. Parce qu'elle avait capitalisé pour ça. Elle avait économisé pour ça. Et elle savait même le jour exact de son départ à la retraite et le montant des mensualités qu'elle pourrait toucher. Donc, tu vois, elle avait tellement sécurisé le périmètre, comme je disais tout à l'heure, qu'elle était capable de se projeter. Et en fait, c'est un choix de vie, si tu veux. C'est vraiment un mode de vie. Alors, tu as le choix de vie lifestyle, en mode influenceur, où effectivement, tu kiffes, tu profites, mais qu'est-ce que te réserve le futur, avec un gros point d'interrogation. Et tu as des gens qui se disent, bon, peut-être que je vais pas tout jeter, peut-être que je vais pas tout cramer, je vais pas tout dépenser tout de suite. Peut-être que je vais être un peu plus smart. Je vais être un peu plus dans la retenue. Je vais préparer peut-être mon futur et celui de mes enfants. Donc, c'est plus des gens qui ont fait un choix de vie où ils ont préféré, ils ont préempté leur indépendance plutôt que un mode de vie festif où effectivement tu profites, mais à quel prix?
Il y a également dedans une notion que je trouve primordial, tu l'as évoqué un petit peu tout à l'heure, celle de la transmission pour les enfants et donc l'éducation. Il ne s'agit pas simplement de transmettre un héritage financier, quand bien même ça puisse intéresser pour mettre à l'abri, etc., ça peut se comprendre, hein, financer les études, de démarrer dans la vie du bon pied. Mais parfois, ça peut être contre-productif si c'est exclusivement financier, mais sans l'apport derrière des connaissances éducatives, de donner une certaine culture financière, etc., etc. Et je trouve cette notion, mais puissante et primordiale.
Oui, bien sûr. Alors, ce que fait le livre, parce que c'est un livre assez didactique, assez pédagogique, c'est qu'il oppose toujours deux exemples. Donc, tu as l'exemple du parent, des parents, du couple de parents, qui va aider ses enfants, qui va donner, je sais pas moi, mais symboliquement, tu sais, 200 ou 300 euros par mois pour aider l'étudiant à faire ses courses, à avoir un pass dans les transports, à payer son forfait mobile. Et à côté de ça, le livre, il met en parallèle les parents qui aident pas financièrement, mais qui ont appris à leurs enfants à être indépendants financièrement, ce qui n'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire qu'ils leur ont appris dès le plus jeune âge la valeur de l'argent, comment en gagner, et en fait, le livre démontre que les parents qui ont appris à leurs enfants à être indépendants financièrement, bah, ça les rend plus riches parce qu'ils sont pas tenus de verser tous les mois une somme mensuelle qui va venir se dégreffer de leur budget, forcément, parce que tu libères une somme en cash, donc ça vient se retirer de ton budget à toi. Et bah, forcément, bah, cet effort de transmission, cet héritage de connaissances et de savoir, cet apprentissage de l'indépendance, mais ça te rend plus riche, en fait. Ça te rend plus riche à tous les niveaux. Ça te rend plus riche au niveau moral, au niveau parental, au niveau pédagogique. Et ton enfant, il est déjà plus responsabilisé à un âge jeune. Et ça n'a pas de prix. Aucune somme d'argent pourra remplacer ça. C'est impossible.
Vaut mieux, alors je sais pas, je vais peut-être dire une grosse bêtise, mais je crois que c'est Confucius dont on tire cette expression. Il vaut mieux apprendre à quelqu'un à pêcher plutôt que de lui donner le poisson, quoi. Je sais plus comment c'est dit exactement, mais.
Oui, c'est l'idée. Il y a autre chose aussi pour compléter le dernier propos par rapport à l'héritage et tout ça. C'est qu'ils apprennent à leur enfant à être indépendant financièrement et ils leur apprennent aussi à aimer cette frugalité parce que c'est cette frugalité-là qui va leur permettre de pas tomber dans le vice des marques, dans le vice de la Rolex, du gros bolide, et forcément de l'assurance qui va avec, du carburant qui va avec, de la garde-robe à n'en plus finir. Donc en fait, ils les vaccinent contre ce virus du paraître. Donc là, ils sont dans une autre optique de vie, et comme par hasard, j'ai envie de dire, ça donne des êtres plus équilibrés, plus posés, qui réalisent plus de choses dans leur vie professionnelle. Ils n'ont pas besoin d'avoir ce côté de consommation, ce côté consumériste. Donc forcément, tu as affaire à des gens qui sont plus intéressants, plus vivaces, plus cultivés, et ça donne des meilleures relations humaines, forcément.
Super, ben j'en profite pour remercier et mon père et ma mère pour l'éducation qu'ils m'ont transmise dans la jeunesse, avec des valeurs, mais c'est vrai, en plus on en rigole, mais c'est vrai, avec des valeurs simples, et non pas dans l'apparence, etc., même si également je n'ai manqué de rien, j'avais... mon petit billet pour aller au cinéma, pour aller faire le petit loisir, etc., etc., mais toujours avec des valeurs simples.
Génial.
De tout ça, si toi, tu avais peut-être, alors à travers le livre ou autre, mais un conseil à donner à travers déjà tous ceux qu'on a pu déjà évoquer, hein, et qui se retrouvent dans ce magnifique livre, un conseil à donner à une personne qui souhaiterait devenir libre financièrement ou devenir millionnaire, devenir riche.
Ouais, c'est simple. En fait, le premier conseil que je donne souvent, avant même de commencer de parler de budgétisation, d'actifs, de passifs, c'est déjà de faire un état des lieux. Donc, c'est un travail assez personnel, assez intime, d'introspection sur ses croyances. Parce que les croyances, on en a reçu beaucoup, à l'âge de l'enfance ou de l'adolescence. En général, j'ai bien dit, en général, dans la grande majorité des cas, nos parents ne sont pas millionnaires. Eux-mêmes, à leur époque, je crois qu'on vient à peu près de la même génération, il n'y avait pas autant de livres et de contenus sur les finances personnelles qu'aujourd'hui, donc ils n'étaient pas formés sur cette question-là. Et il est probable, donc la première chose que je dirais à une personne qui viendrait dans la rue pour me poser la question « qu'est-ce que je dois faire en premier ?» ce serait de faire un nettoyage, un toilettage de ses croyances limitantes. Ça, c'est la base. Parce que si on a des mauvaises croyances, on a forcément des mauvais réflexes, on a un mauvais mindset. Donc même parfois, on va te proposer une affaire en or, mais comme toi, t'es sur le réflexe de la peur. Tu dis « ouais, j'ai peur, je peux pas investir 5 000 et tout, je les garde dans ma poche, je vais pouvoir me payer ce voyage-là, comme ça je pourrais bien frimer sur les réseaux sociaux et tout ». pour montrer aux autres que j'ai une vie sociale et tout. Donc déjà, c'est de faire une mise à jour de tes croyances. Est-ce qu'elles sont en accord avec avec tes attentes? Parce que s'il y a un déphasage entre tes attentes et tes croyances, bah tu vas souffrir. Ça, c'est le premier conseil que je donnerais. Le deuxième, ce serait de trouver un emploi, parce qu'on est obligé de travailler quand même. Enfin, on peut travailler sans être salarié, on s'est compris. C'est trouver un emploi qui soit ta vocation. Par exemple, moi, je parlais de moi, une seconde.
Avec grand plaisir.
J'enseigne, j'adore ça. J'adore partager, comme je le fais avec toi, tu vois. J'adore ça, partager ce que j'ai pu, les trésors que j'ai pu avoir croisés sur mon chemin. Donc, il faut vraiment avoir un métier dans lequel tu puisses t'épanouir, tu vois. Ça peut être enseignant, comme moi je le suis par exemple, être éditeur, j'adore les livres. Là derrière moi, tu vois probablement, j'ai plusieurs bibliothèques comme ça de livres. J'adore lire. Donc j'essaie à chaque fois de mêler ma passion avec mon métier. Et par exemple, quand je croise des étudiants en école de commerce, ils me disent mais avec vous c'est pas pareil. On sent que quand vous parlez, il y a autre chose qui vous anime. Vous parlez pas comme un prof nous parlerait, parce que je leur fais des recommandations de livres, je leur montre des vidéos sur YouTube un peu motivantes. Je leur demande des campagnes de promo un peu originales. Tu vois, j'essaie de les sortir du carcan pédagogique, académique habituel, tu vois. Et ça, ils le ressentent. Ils le vivent comme une expérience à part. Donc, le deuxième conseil que je donnerais à nos auditeurs et auditrices, c'est de trouver un job, une mission. Ça peut être en freelance, ça peut être en auto-entrepreneur, ça peut être en entrepreneur. À vous de définir votre motivation et là où vous voulez aller, mais qui soit en accord avec votre vocation. Donc, ça demande vraiment de se connaître beaucoup intimement pour pouvoir se réaliser. Et une fois que vous serez dans votre vocation, je vous garantis, vous allez plus voir les heures de travail, vous allez voir que le plaisir de partager, de donner aux autres et d'avoir des retours positifs. Et ça, c'est ça le bonheur pour moi, professionnel, c'est ça, vraiment.
Super. Et du coup, j'ai le plaisir d'avoir ta définition du bonheur.
Oui.
Après celle de la richesse, etc. Mais c'est très intéressant ce que tu dis. Donc, d'une part, se remettre en question, casser ses croyances et d'être, quelque sorte, toujours dans la recherche, dans le questionnement, et d'être aligné avec ses valeurs, de faire un job, une activité, un travail où on est aligné, bien sûr. Est-ce que toi, tu parles de remettre en cause, de casser ses croyances? Est-ce que tu peux nous citer une ou deux croyances, peut-être toi, à titre personnel, que tu avais, qui étaient bien ancrées, ou tu as peut-être switché, renversé, etc. Est-ce que tu as, un titre perso, des choses qui t'ont fait évoluer sur certains points de vue?
Ouais, bah, il y a beaucoup de croyances limitantes. Il y a beaucoup de croyances limitantes à briser. Je dirais, bon, pour changer, pour varier un petit peu, je dirais déjà la croyance dans la confiance en soi. C'est-à-dire que je pars du principe, et c'est ce que j'essaie d'enseigner à mes étudiants, que la croyance n'est pas quelque chose d'inné, n'est pas quelque chose d'acquis, mais quelque chose qui se construit. Donc, ça se construit dans la relation que tu peux avoir avec tes parents, avec tes camarades de classe quand t'es à la maternelle, quand t'es en primaire, et ton rapport avec les autres. Donc, à partir du moment où c'est un processus de création ou de co-création, si tu veux, et que c'est pas quelque chose qui est inné, c'est pas dans ton ADN, tu vois, il n'y a pas le chromosome de la confiance en soi. C'est quelque chose que tu peux perdre parce que tu as eu des échecs, tu t'es planté, ça arrive à tout le monde, c'est pas grave. Mais c'est quelque chose, si tu peux le perdre, c'est que tu peux le gagner aussi. Et si tu peux le gagner, tu peux l'augmenter aussi, tu peux faire un truc plus exponentiel. Ça peut monter, tu vois. Et donc voilà. Tu peux avoir quelqu'un qui avait pas spécialement confiance en lui, ce qui était pas mon cas parce que moi j'ai toujours eu plus ou moins confiance en moi, mais dès que j'ai pris conscience que je pouvais améliorer cette confiance en moi, que ça allait rejaillir sur les bonnes relations que je pouvais avoir avec les autres, eh ben j'ai mis vraiment le truc, c'est comme dans le four, le thermostat 8, et j'ai mis plus, tu vois.
Avec l'option grille, avec tout ça.
Tu vois. Et en fait, il y a autre chose aussi que je veux dire, c'est que la confiance sans éthique, c'est-à-dire si tu as confiance en toi, mais c'est juste pour écraser les autres, ça marche pas non plus. C'est que moi, je me suis mis en mode grille, comme tu dis, mais c'est pour donner aux autres, c'est pour partager aux autres mon expérience, et quand je fais quelque chose, j'essaie toujours de le faire en essayant de donner le meilleur de moi-même. Je peux pas concevoir que quelqu'un puisse arriver sur un poste de travail quel qu'il soit, tu vois, commercial dans la production, dans la logistique, tu prends n'importe quel boulot, même administratif, et qu'il donne pas le meilleur de soi-même. Ça, je peux pas l'entendre. S'il donne pas le meilleur de lui-même, ça veut dire que c'est pas sa vocation, ça veut dire qu'il doit changer. Il est dans un bullshit job. Tu perds ton temps, bon, tu gagnes certains salaires plus ou moins décents, mais ton job, il n'est pas là, il doit être ailleurs, et c'est à toi de trouver. C'est ta mission sur Terre. Si je dirais, tu as une mission à trouver, si tu dois trouver ta vocation. C'est le plus important, je trouve. Et combien de fois j'ai parlé avec des gens qui avaient un certain âge, qui avaient 50, 60, 70 ans, qui ont gagné énormément d'argent et qui arrivaient en bout de vie, en fin de vie, et qui se disaient, tu sais, j'ai gagné beaucoup d'argent, mais moi, ma passion en réalité, c'était la peinture, ou la sculpture, ou le voyage, ou il va dire n'importe quoi, tu vois, ou la littérature, ou je sais pas moi, ou la visite des trucs archéologiques, et je l'ai pas fait parce que je devais acheter une maison, je devais faire vivre ma famille, et après il a que des regrets. Donc ne vivons pas dans le regret, trouvons notre vocation, ayons confiance en nous, donnez le meilleur de vous-même, et vous allez voir, il va vous arriver que des bonnes choses. C'est sûr, c'est garanti.
Je kiffe ton état d'esprit où on ressent ce côté de vouloir gagnant-gagnant. Tu l'as évoqué tout à l'heure, la richesse, c'est quelque chose qu'on peut atteindre sans rien enlever aux autres. Là, tu le redis d'un point de vue monter en compétence, enfin monter en gamme sur le niveau de confiance qu'on peut avoir, sur le niveau d'estime. Mais encore une fois, pour pouvoir partager et transmettre, et c'est pas au détriment de l'autre.
Jamais.
Et ce côté un petit peu gagnant-gagnant, je trouve ça fantastique, et on peut le retrouver même dans les affaires, dans le business, l'immobilier, etc. Faire une transaction, un commercial, un vendeur peut toujours faire des choses gagnant-gagnant. Il n'a pas besoin que ce soit au détriment de l'autre. Et je partage à 10 000% cette belle énergie que tu nous envoies, Bassem, en tout cas.
Et moi, j'essaie toujours dans les échanges que j'ai avec toutes les personnes que je peux croiser, j'essaie vraiment de donner le truc, tu vois, le truc, c'est des fois c'est personnel, c'est intime, c'est le truc qui fait ta signature à toi. C'est-à-dire que t'as certains artistes, par exemple, certains violonistes qui vont faire du violon, mais d'une manière qui est propre à eux. T'as certains judokas qui vont faire du judo, mais rien que tu le vois, tu sais que c'est telle personne. Certains musiciens qui jouent du piano d'une telle manière. Donc moi j'essaie aussi, c'est-à-dire que ce que j'essaie de te dire par là, c'est que j'envisage le travail vraiment comme un art. Je l'envisage comme un artiste, et chaque fois qu'on me donne une tâche, même si pour les autres elle va être rébarbative, c'est barbant, c'est ennuyant, moi je me dis non, c'est pas ennuyant. Il faut que si j'y mets ma dose de créativité à moi, je vais réussir à la personnaliser, à la faire à ma sauce, à moi, et forcément le rendu sera unique, parce que ça sera soit à la sauce Bassem, soit à la sauce Ismaël, mais la sauce Ismaël, il y en a pas deux, il y a que Ismaël qui fait comme ça, et ça fait ta signature, et c'est ce que les gens doivent faire en fait vraiment, et c'est ça qu'on apprécie chez les artistes, c'est que quand tu vois une peinture de Picasso, il y a pas besoin de marquer Picasso en bas à droite, la manière dont il a fait, tu dis c'est un Picasso, c'est sûr, ou c'est un Van Gogh. Tu reconnais le Van Gogh, le style de Van Gogh en un clin d'œil, tu vois. Et là, c'est pareil. On doit tendre vers cette excellence, cette éthique, cette confiance en soi. Et c'est ce qu'enseigne le livre Millionnaire Next Door. C'est que la richesse, en fait, si tu veux, le message sous-jacent du livre, sans spoiler, c'est la richesse, l'argent, c'est pas ce qu'on vous a raconté. Tout ce qu'on vous a dit sur l'argent, c'est pas ça. Vous avez cru que c'était les yachts, vous avez cru que c'était les Rolex, c'était pas ça, c'est faux. C'est comme si le livre faisait une sorte de mise à jour du logiciel des personnes qui vont le lire, et voilà, donc le livre c'est une ouverture vers un renouveau, je l'espère, et vers des gens qui auront l'information la plus fraîche et la plus novatrice qui va leur permettre d'avancer.
Doré, pour revenir sur ce livre, justement, on a évoqué rapidement le côté de la transmission pour les enfants. À ce titre, j'ai fait deux superbes émissions avec Maître Juliette Olivo et Maître Cyril Colmagro sur la transmission, l'héritage, la donation, la succession. D'une part, pourquoi il est important de prendre ces sujets-là en main et assez tôt, et comment on peut l'organiser. Mais en dehors de ce côté financier, donc l'éducation, est-ce que toi, tu aurais un conseil, une approche à donner pour des personnes, les auditeurs, les auditrices qui nous écoutent, qui ont peut-être des enfants, un an peut-être pas, mais 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, 12 ans, 15 ans, comment on introduit toutes ces notions d'éducation financière? Comment tu vois la chose?
C'est une question un peu personnelle, tu sais, c'est un peu parce que chacun a un rapport à ses enfants qui lui est propre et qui fait partie de son histoire, parce que inconsciemment, on reproduit un peu les schémas qu'on a subis nous-mêmes enfants par rapport à nos parents. Et puis s'il y a des choses qui nous ont plu avec nos parents, on essaie de les refaire vivre à nos enfants parce que on veut qu'ils connaissent ce bonheur, tu vois. Et s'il y a des choses qui nous ont plutôt déplu, on va leur éviter ça parce que ce sont nos enfants et on les aime. Bon, concernant l'argent, je dirais, c'est à chacun de voir midi à sa porte. Il y a des gens qui vont en parler, c'est un peu comme la sexualité, si tu veux. Il y a des parents qui vont en parler assez tôt parce qu'ils estiment que c'est important que l'enfant soit conscient de cette question-là pour ne pas tomber dans des traquenards ou pour ne pas leur reprocher de ne pas leur en avoir parlé avant, mm-hmm. ou pour que ce ne soit pas une autre personne qui leur fasse à leur place. Mm-hmm. Donc je dirais que sur ces questions-là, c'est une question intime. De toute façon, je vais te dire un truc. C'est très simple. L'autre jour, je lisais la biographie de Guy de Rothschild, qui est donc l'un des descendants de la famille Rothschild, qui a grandi au XXe siècle, en fait, si tu veux. Là, il est décédé. Maintenant, ce sont ses enfants. Ses enfants à lui sont actuellement à la tête de la banque Rothschild, à l'heure où je te parle. Donc, c'est leur père, en fait, si tu veux.
D'accord.
Et en fait, à cette époque-là, quand il était enfant, son père, déjà, il était, inutile de dire, il était super riche. Il était milliardaire. Il vivait dans un château qui existe encore aujourd'hui, qui est le château de Ozoir-la-Ferrière, qui est maintenant devenu un hôtel, une école de restauration et de haute gastronomie. Et en fait, quand lui, il vivait dans ce château, c'est un château, tu verras sur Internet, il est immense. Il y a une décoration qui est assez spécifique. Il avait, 20 servantes et 10 majordomes. Mmh. Et après, quand il a écrit sa biographie, ça m'a fait sourire, ça m'a fait rire. Il se disait, moi, je jouais dans le château et dans ma tête, donc je cite la personne, hein, et dans ma tête, je pensais que chaque enfant sur Terre était comme moi. Pourquoi je te raconte cette histoire-là? C'est pour te dire que quand on est enfant, on n'est pas encore confronté au monde. On est encore dans sa petite bulle. On voit pas les différences, tu vois. Et que tu sois dans une bulle dorée, dans une cage dorée, ou dans une bulle un peu plus modeste, tu t'en rends pas compte. C'est le même bonheur. C'est la même chose, si tu veux. Donc je pense qu'il faut en parler à partir du moment où l'enfant, il prend conscience du monde dans lequel il vit, il commence à s'ouvrir, où il est capable de se comparer aux autres. Mmh. Tant qu'il est dans sa petite bulle Disney, dans son innocence, il faut le préserver. Je pense que moi, je pars du principe où il faut garder cette innocence le plus longtemps possible. C'est un âge un peu, c'est un âge un peu magique. Il faut pas venir lui parler de taux, de crypto quand il a 6 ans. Je ne crois pas. Je ne crois pas à ça. Mais à partir du moment où il vient vous dire, ou par exemple, si ta fille vient te dire, ah, tu sais, papa, le papa de Sophie, ma copine en classe, il a une Lamborghini. Là, ça y est. C'est la porte ouverte. Tu peux y aller. C'est le moment d'expliquer parce que là, on est dans le comparatif et là, tu peux y aller. Mais tant que t'as pas eu ce cas, t'as pas eu cette comparaison, cet échelonnement de valeur avec d'autres, moi, je pense qu'il faut pas en parler. C'est encore trop prématuré pour un enfant. Mm-hmm. Il a pas besoin de le savoir. Moi, j'estime ça. C'est mon opinion. Après, il y a d'autres qui en parleront tout de suite. Moi, j'estime qu'il faut attendre le bon moment pour le faire. Et puis, pour saisir la notion d'argent, il faut quand même un minimum de maturité. Parce que si on te parle d'argent et que t'en as pas dans les mains, ça ne sert pas à grand chose, en fait, finalement. Il faut déjà en avoir un petit peu un usage pratique pour en saisir la valeur. Donc, je pense que moi, je situerais ça aux alentours de peut-être 9, 10, 11, 12 ans. Peut-être c'est le bon virage pour en parler. Avant, c'est un peu trop tôt, j'estime. Il faut laisser l'enfant se construire et loin de ces questions-là. De toute façon, après, il va devoir gérer ces questions-là jusqu'à la fin de sa vie. Donc, il ou elle aura le temps d'y réfléchir.
Ouais, bien sûr. Le livre dont tu fais référence, c'est un livre que tu souhaites traduire, toi, en français, ou tu as d'autres projets?
Oui, en fait, on a d'autres projets qui vont sortir prochainement. Il y a le livre de Félix Denis qui s'appelle « Comment devenir riche », qu'on va sortir bientôt. Et après, on a un autre livre qui s'appelle « Votre argent ou votre vie » de Vicky Robin, qui va sortir. Donc là, on a deux prochaines sorties bientôt.
D'accord, toujours avec Frégate Édition.
Toujours.
Super. On sent chez toi cette culture du dev perso, etc. Est-ce que tu as un projet de traduction d'un livre, peut-être, mais même en dehors de ça, est-ce que tu as un livre, peut-être coup de cœur, une ressource que tu pourrais recommander également aux éditeurs, aux éditrices qui nous écoutent aujourd'hui?
C'est ce que je fais toujours. J'adore faire ça. Là, tu m'emmènes vraiment dans le terrain que je préfère. C'est ce que je fais même dans le cadre des cours. Même si les élèves ne me le demandent pas, à la fin de chaque cours, à la fin du semestre, je leur présente une petite série de livres. Alors avant, j'en aurais présenté 5. Je pense que c'est trop. Maintenant, j'en présente qu'un seul pour garder cet esprit un petit peu carré et synthétique. Focus, voilà, pour pas trop m'éparpiller. Donc, si je pouvais conseiller un livre, paradoxalement, ça va pas être un livre de finances personnelles. mais ce sera le livre de Robert Greene que tu connais peut-être, qui est l'auteur des 48 lois du pouvoir. Ce sera le livre Atteindre l'excellence, qui est devenu l'un de mes livres de chevet. C'est une sorte de d'art de la guerre. C'est une sorte d'art de la guerre en mode Sun Tzu, du développement personnel, où il explique en 6 ou 7 étapes, je crois, comme le titre l'indique, comment atteindre l'excellence. Donc, et justement, l'une des premières étapes qu'il recommande dans son livre, c'est de découvrir sa vocation. Donc, je tire cette petite astuce, ce petit insight de Robert Greene, qui est l'un de mes auteurs préférés, et que je recommande ce livre vivement. Il est sorti aussi en édition condensée pour les gens qui n'auraient pas le courage de lire les 300 pages. Je crois qu'ils ont réalisé une version condensée de 100 pages pour les personnes un peu pressées, mais qui veulent quand même avoir l'essentiel, le nectar du livre. Et pour les plus courageux, courageuses, il existe en version intégrale. Et je le recommande vivement, c'est un super livre.
Cool. Dans quelle classe d'actifs tu investis aujourd'hui? Où tu aimes, est-ce que tu investis hein, d'une façon générale ton argent? J'imagine que oui. Et dans quelle classe d'actifs tu vas? Est-ce que tu as une classe d'actifs que tu apprécies particulièrement?
Personnellement, j'apprécie l'immobilier. J'apprécie l'immobilier. Donc pour moi, c'est une valeur refuge, si tu veux. En plus, en ce moment, les taux sont bas. Donc faut en profiter. Les taux sont bas. Les opportunités de marché sont là. On est en France. C'est l'un des plus beaux pays du monde. Même si je sais que beaucoup de Français sont dans le French bashing. Pourquoi je dis ça? On a la Côte d'Azur. Il y a la Côte Atlantique, qui est magnifique pour les gens qui sont côté Nantes, côté Bordeaux. Strasbourg, c'est très beau.
Il y a la Côte d'Opale aussi, qui est magnifique pour les nordistes. Aussi. Il faut pas l'oublier. J'ai fait 10 ans dans le Nord. C'est vraiment magnifique. On parle tout le temps de la Côte d'Azur, mais la Côte d'Opale, avec le site des deux câbles, Blanet, Grinet, etc., c'est magnifique aussi. Mais vas-y, je t'en prie.
Ce que j'essaie de dire par là, le message sous-jacent que j'essaie de transmettre, c'est que t'as pas besoin de gagner 10 000 euros par mois pour commencer à investir en immobilier. Si t'arrives pas à acheter en région parisienne, ce que je peux comprendre, parce que ce sont des formules mathématiques, va à Grenoble, va à Saint-Étienne, va à Strasbourg, va à Metz, va à Amiens, enfin, tu vois, va à Poitiers. Il y a certainement des studios qui sont libres, il y a des appartements, des F2, des F3, des pavillons. Donc, c'est-à-dire que, en fonction de la taille de ta bourse, en fonction de ton capital, de tes capitaux, de ta force d'investissement, le pays, notre pays, il est assez grand, relativement grand, c'est le plus grand pays d'Europe. Donc ça, c'est un fait, d'accord, en termes de superficie, en termes de kilomètres carrés. C'est un pays qui est magnifique, tu peux trouver tous les paysages. Tu veux de la montagne, tu as de la montagne. Tu veux de la mer, tu as de la mer. La campagne, il y en a plein. Tu veux du truc plus urbain parce que tu veux louer à des étudiants ou des jeunes actifs, t'as de l'urbain, t'as tout en fait finalement, t'as tout. Tu veux quelque chose près des buildings, il y a des buildings. Donc, tu vois, donc moi, mon investissement préféré, à titre personnel, c'est la pierre. C'est une valeur refuge. Et maintenant, depuis la Première Guerre mondiale, si t'analyses la valeur patrimoniale de l'immobilier en France, c'est une courbe qui fait que, tu vois, sur Internet, elle fait que monter, tu vois. Des fois, elle a des petits soubresauts, mais c'est pour que la correction du marché, après, ne vienne qu'augmenter la valeur de l'immobilier. Donc, moi, personnellement, à titre personnel, ce serait plutôt l'immobilier. Et ensuite, mon deuxième placement préféré, c'est en entreprise. Parce que quand tu investis dans une entreprise et que l'entreprise fonctionne et qu'elle génère de la rentabilité, qu'elle devienne, comme moi je le dis dans mon futur livre que je suis en train d'écrire, quand tu es sur une entreprise qui devient une cash machine, et je te souhaite Ismaël un jour d'avoir une entreprise qui devienne une véritable cash machine, et là, ce que tu as mis, les 10 000, les 20 000, les 100 000 euros que tu as investis, tout de suite, grâce à cette cash machine, ils prennent plus 20, plus 30, plus 40, et là, c'est incroyable, ça devient presque magique, c'est presque de l'argent magique, et la valeur de ton entreprise, elle, boum, elle grossit, donc j'apprécie beaucoup, et j'aime aussi mettre mon argent au service de quelque chose qui est tangible, pour créer de la valeur, pour créer des emplois. Par exemple, là, dans le cadre de Millionnaire Next Door, tu pourras le voir à la fin du livre. Le livre, il est imprimé en France. Donc, je fais travailler l'économie française. Donc, on est engagé sur nos territoires. Je ne l'ai pas fait imprimer en Italie ou en Pologne pour le ramener. En plus, le bilan carbone Là, il y a des questions d'écologie. Donc, il est imprimé en France, il est conçu en France. Donc, tu vois, il y a tout cet aspect aussi de la souveraineté nationale, parce que on défend aussi ça. Et pour moi, ça fait partie d'un packaging. Donc, l'aspect écologique, patriotique, économique, sont des wagons que tu peux pas retirer les uns des autres. Et donc voilà. Donc j'aime mettre mon argent. Par exemple, je vais acheter un appartement. Et ben, je vais le louer à une infirmière parce que elle a besoin de travailler près de l'hôpital. J'ai de l'argent. Je l'investis dans l'entreprise et je vais embaucher des gens. Au début, peut-être, j'ai pas beaucoup d'argent. Je vais embaucher des freelances. Je vais faire travailler des gens de mon coin, des graphistes, des traducteurs, des imprimeurs, donc des webmasters. Tu vois, je fais travailler toute une économie, tu vois, parallèle à l'édition. Je deviens fournisseur de la Fnac, d'Amazon. Donc, tu vois, tu rentres dans un système économique. Donc, j'aime aussi que l'argent soit utile.
Yes. L'immobilier, l'entrepreneuriat.
L'entrepreneuriat, l'immobilier. Et puis, pour finir avec un troisième, ce serait les actions. Les actions. Là aussi, j'investis sur des coups de cœur, sur des entreprises dans lesquelles je crois. C'est pas pour faire plus 50 en une nuit. C'est en général des investissements long terme. Et tu sais quoi, des fois même j'investis dans des entreprises juste pour être invité en tant qu'actionnaire, parce que moi, tu sais, je suis tout le temps dans un truc de formation, d'auto-formation. Donc des fois j'achète juste quelques actions symboliques, tu vois, genre 5 ou 6 ou 10. Comme ça, je suis invité au, tu sais, une fois par an, ils font leur
l'assemblée générale.
Merci beaucoup, cherchez le mot, l'assemblée générale. Et après, je reçois le petit dossier et moi, après, en tant que professeur d'entrepreneuriat, j'analyse, tu vois. J'analyse les données et ça me fait ma formation. Tu vois, j'ai pas acheté un livre. Donc, non seulement je suis investisseur, entre guillemets, même si je suis un petit porteur, mais moi, ça me permet de me former, de comprendre les stratégies, les tenants, les aboutissants, tout ça.
Super intéressant de toujours se remettre en cause, faire sa propre expérience et d'être dans l'apprentissage sans cesse. À l'inverse, est-ce que tu as peut-être une classe d'actifs sur laquelle tu n'irais jamais?
C'est dur à dire. Moi, personnellement, peut-être que je n'irai pas dans le système des franchises. Peut-être que je n'irai pas dans le système de franchise parce que, selon moi, selon mon expérience, c'est une sorte de salariat déguisé où tu es tenu par un contrat, où tu es obligé d'acheter auprès de leur centrale d'achat. En fait, tu deviens un pion sur l'échiquier d'un autre entrepreneur. Donc, pour moi, c'est comme une sorte de fake. T'es un fake entrepreneur. Tu crois que t'es entrepreneur, mais tu l'es pas. T'as juste acheté une marque.
Il te manque un peu une certaine liberté là-dessus. Ouais.
Bah oui, c'est pas toi qui définis la stratégie. En fait, tu définis pas la stratégie, pas les prix, pas la com. T'as juste ouvert un point de vente. Je dirais l'un des pires cas là-dessus, c'est par exemple la franchise Subway, qui est l'une des pires franchises. Je dis ça, ben après je vais pas avoir un procès avec eux non plus. Mais pourquoi? Parce que t'es obligé d'acheter auprès de leur centrale d'achat eux. Donc par exemple, tu peux voir la bouteille de Coca, et ben tu l'achètes au prix Subway. Même si par exemple dans ton Carrefour du coin il est à 1,17€, et ben si Subway ils veulent te vendre à 1,50€, et ben tu l'achètes à 1,50€, t'as pas le choix. Tu vois? Donc tu deviens la vache à lait d'un autre entrepreneur. Je vois les côtés négatifs de ce système-là, et quelque part, on te vend une fausse liberté où tu deviens juste un pion sur la carte d'un autre entrepreneur qui lui développe vraiment son business, et puis toi, tu l'aides à développer, en fait, finalement.
Tu évoquais l'investissement dans les entreprises, le private equity un petit peu. Tu souhaites, avec ta maison d'édition, peut-être un jour faire une levée de fonds, te développer, aller plus vite. Il serait possible d'investir chez toi?
Ouais, totalement, c'est possible d'investir chez moi. Après, l'idée de Frégate Édition, ce serait peut-être d'ouvrir une antenne au Canada, au Québec, parce que là-bas, il y a des lecteurs francophones qui aimeraient probablement lire Millionnaire Next Door en français, même si là-bas, il y a beaucoup de gens qui sont bilingues du fait de la proximité avec les États-Unis. Tu sais que la frontière canadienne, elle est assez poreuse, donc il y a beaucoup de cultures qui traversent les deux pays. Mais je pense que ouais, le next step pour moi, ce serait d'ouvrir une antenne au Canada, pourquoi pas une antenne en Afrique, parce que là aussi, il y a beaucoup de lecteurs. Par exemple, Millionnaire Next Door, c'est exporté au Maroc, c'est exporté en Tunisie, c'est exporté au Sénégal. Je parle bien entendu de la version française que moi j'édite.
Oui, bien sûr.
Donc il y a toute la francophonie à développer. Donc je pense au Québec, je pense à l'Afrique francophone, donc le Maghreb et l'Afrique subsaharienne. Et puis pourquoi pas, maintenant on a beaucoup d'expatriés français partout dans le monde, au Vietnam, en Asie, aux États-Unis, en Amérique latine, et puis peut-être eux aussi, ils aimeraient bien voir le livre en français. C'est toujours plus plaisant de lire en français que de lire en anglais. Moi, j'ai essayé de lire en anglais, c'était un peu... Des fois, j'étais inconfortable avec des termes, et puis j'ai arrêté de lire, un peu comme toi, ce que tu disais au début de l'échange. En français, j'étais à l'aise, et puis ça roulait, quoi.
Exactement, ouais. En anglais, pour beaucoup qui sont pas forcément bilingues vraiment à 100%, ça demande une concentration supplémentaire. Et oui. Ouais, très intéressant sur le fait de ta volonté de développer sur tout le secteur de la francophonie. Je le vois à travers le podcast également. J'embrasse tous les amis qui sont au Canada, qui écoutent aux Émirats, en Belgique et partout ailleurs. Car même si la France représente la majorité, il y a énormément de Français, de francophones d'Afrique et d'ailleurs qui écoutent aussi l'émission.
Bien sûr.
Écoute, Bassem, en tout cas, moi je te remercie pour tout.
Merci.
Tout cet échange vraiment très très riche à travers justement notamment ce livre, The Millionaire Next Door, tous ces secrets, ces surprenants secrets. Je remercie pour également ta transparence sur toi-même, tes investissements, etc. C'est toujours sympa d'avoir un petit peu côté un petit peu plus personnel. Tu as une citation, tu sais, je demande à chaque invité qui vient sur le podcast s'il a un mantra, une citation qui se répète régulièrement.
Oui.
Est-ce que tu peux nous la dévoiler et pourquoi ?
Ce qui ne tue pas te rend plus fort. C'est justement, j'ai choisi ce mantra-là, cette citation-là. Donc, c'est une citation de Nietzsche, du philosophe Nietzsche. Après, elle a été reprise, galvaudée. Maintenant, elle apparaît même dans les magasins féminins comme Marie-Claire et compagnie, dans les dossiers de développement personnel. Mais à la base, c'est une phrase du philosophe Nietzsche. C'est quelque part, c'est une sorte d'appel que je fais aux auditeurs, auditrices qui vont nous entendre, nous écouter, pour leur dire, allez-y, quoi. Foncez. Tombez. Mais c'est en tombant qu'on apprend. Allez-y. Rentrez dans la mêlée. Et puis, vous allez apprendre de vos erreurs, vous allez vous former, vous allez continuer, vous allez en sortir plus fort, plus grandi, parce que quand on a une vraie expérience du terrain, on est toujours beaucoup plus conscient des choses, des rouages du système, et des rouages comment devenir millionnaire. On peut pas juste, si tu veux, ce que je voulais faire passer comme message, c'est que ça doit pas être juste une lecture récréative, parce qu'il y a beaucoup de gens qui lisent des livres de millionnaires, et pour eux, c'est un bon moment qui passe. Et après, tu sais, ils referment le livre, ils disent, ouais, c'est bon, moi, je sais comment devenir millionnaire. Je le serai pas forcément, mais au moins, maintenant, j'ai les skills. Non, il faut vraiment essayer de le mettre en pratique dans la vraie vie, en allant voir son banquier, en essayant de prendre même un petit crédit pour un appartement avec ses moyens. Vraiment, essayer d'ouvrir une petite boîte, trouver des clients, faire une promotion sur LinkedIn, contacter des fournisseurs. Moi, personnellement, à titre d'exemple, tu sais, j'étais pas nécessairement formé pour monter une maison d'édition. Je l'ai monté sur un coup de cœur parce que j'adore les livres. C'est ma passion, c'est mon moteur, comme tu as pu le saisir. J'ai pas fait un business plan avant avec des tableaux financiers. Je me suis pas dit, ouais, sur la troisième année, je devrais être à l'équilibre, machin bidule. Ça a été très, très instinctif, très intuitif. Je me suis dit, j'ai besoin d'un véhicule, c'est-à-dire d'une entreprise pour éditer le livre.
Bien sûr.
Il faut que ça soit fait dans les règles de l'art. Et j'ai su plus aller en mode intuitif, vas-y, fais-le, et puis on verra, le next step, tu verras, tu vas pas improviser, mais c'est la nature des choses qui va t'indiquer ce qu'il faut faire après, et j'ai pas du tout fait le truc du consulting, de machin bidule, j'y suis vraiment allé à l'instinct, un petit peu au doigt mouillé, je crois plus aux gens qui sont animés par une passion que des gens qui ont vraiment bordé tout le truc, parce que tu sais, dans la vraie vie, il se passe toujours un truc qui va venir embrouiller les choses. Donc, si t'es pas animé par une passion solide, c'est ça qui va te permettre d'avancer et d'atteindre l'excellence, de te former. Et même des fois, tu sais, tu fais un projet, ça débouche sur autre chose que t'avais pas forcément prévu, et tu rebondis ailleurs, et tu rencontres telle personne, et voilà, et t'ouvres une porte, tu vois. Et je pense que l'audace de nos jours, le culot, on t'enseigne pas. Il y a aucun livre qui va dire, vas-y, aie du culot, ou tes parents, ils vont pas dire, vas-y. Il faut que tu te donnes à toi-même un coup de pied au cul, excuse-moi l'expression, et que tu te frottes au réel. Et puis si on te dit non, c'est non, c'est pas grave. Mais au bout d'un moment, il y a quelqu'un qui va te dire oui, vas-y, j'ai confiance en toi et on va le faire. Tu vois ? Et il faut se confronter au réel. Donc, tout ce qui te tue pas te rendra nécessairement plus fort parce qu'en fait, tu vas apprendre de tes échecs et tu vas apprendre aussi de tes succès que tu pourras partager avec les autres.
Exactement. Ben écoute, super mot de la fin, Bassem. Je partage à 10 000% et j'ai cette image. Alors déjà, bon, on voit que tu veux pousser aux gens de s'élever, d'être la meilleure version d'eux-mêmes, d'être actif, de croire en leurs rêves, de réaliser leurs rêves, oui, de faire les choses et d'avancer. Et en effet, j'ai cette vision, pour reprendre un petit peu ce qui ne tue pas rend plus fort. J'aime beaucoup Tim Ferriss et il y a ce système, là, je ne sais plus comment il explique, de colonne. J'ai un projet, j'y vais. Et des fois, on est paralysé par la peur, on ne le fait pas, on est passif, non pas qu'on soit fainéant ou quoi, mais c'est qu'on a peur d'échouer, on a peur de se tromper, on a peur de faire une bêtise, on a peur de perdre de l'argent. Mais il y a ce système de colonne, hop, j'ai mon action que je dois mettre en place, et en face, quel est le risque? Ouais. Quel est le plus gros des risques? Mmh. Et encore une dernière, ben, qu'est-ce que je peux faire si vraiment le plus gros des risques se réalise? Qu'est-ce que je peux faire derrière pour rebondir? Et au final, une fois qu'on se pose un petit peu sur tout ça, on comprend que, ben, au final, il n'y a pas de risque à se lancer comme tu as fait pour, par exemple, faire ta maison d'édition qui aujourd'hui cartonne. Et voilà, donc merci pour tous ces enseignements, Bassem. Le livre The Millionaire Next Door, il était vendu en combien d'exemplaires? Parce que j'ai dit que c'était donc un best-seller, hein, bien sûr, etc. Est-ce que tu peux juste nous donner le chiffre?
Oui, alors aux États-Unis, c'est vendu à plus de 3 millions d'exemplaires.
Yes.
Et il continue à se vendre parce que c'est un classique indémodable, en fait. Et là-bas, en Amérique, on l'offre aux jeunes mariés, on l'offre aux nouveaux couples qui s'installent. Donc là-bas, ouais, plus de 3 millions d'exemplaires selon les chiffres officiels. Mais à mon avis, depuis, il a encore été vendu à 1 million d'exemplaires supplémentaires. Donc c'est vraiment un livre de chevet. Je dirais que dans les finances personnelles, il est facilement dans le top, top 10, très facile, et probablement dans le top 5. Très, très facilement. Donc, c'est vraiment un gros classique.
Super. Bah, encore une fois, je remettrai tous les liens pour pouvoir se le procurer à l'approche des fêtes de Noël. En plus, c'est parfait.
Ouais.
Si vous voulez vous offrir, vous faire un cadeau, offrir un cadeau à votre conjoint, à votre conjointe, à votre meilleur ami, etc. C'est un livre que je recommande. Bassem, alors, c'était pas demandé avant, mais je te le demande en live.
Vas-y.
Est-ce qu'il serait possible, est-ce que je peux te demander pour un auditeur, une auditrice de la bonne fortune, d'organiser, j'aime bien faire ça, un petit jeu concours pour pouvoir aussi le gagner et de l'offrir à un auditeur, une auditrice de la bonne fortune?
Bah carrément, ouais, on peut le faire.
Pour les remercier, pour celles et ceux qui auront écouté l'émission jusqu'au bout, qui puissent être, pour l'un ou l'une d'entre elles, être récompensés de leur écoute active.
Mais carrément.
Écoute, c'est très très gentil parce que tu vois, je te prends comme ça en live.
Avec grand plaisir.
Tu montres encore une fois ta générosité, c'est super sympa. Je mettrai tout ça, on verra pour organiser tout ça et l'envoi, etc., etc.
Ouais, bah tu me communiqueras les coordonnées et puis je ferai l'envoi moi-même directement, avec grand plaisir.
Super. Merci pour tout, Bassem. Où c'est qu'on peut te retrouver le plus facilement, par mail, par LinkedIn?
Le plus facilement, donc j'invite tous les auditeurs et les auditrices à me retrouver sur Instagram. Il y a le compte Millionnaire Next Door en un seul mot, FR. Donc tout attaché, Millionnaire Next Door FR. Donc millionnaire, je précise que c'est un N parce que c'est la version américaine. En français, c'est deux N. Donc Millionnaire Next Door, c'est là où je suis le plus actif, c'est sur le compte Instagram. Donc les gens peuvent m'envoyer des messages. Des fois, j'ai des personnes qui m'envoient des questions, donc j'essaie d'y répondre le plus personnaliser la réponse.
Bien sûr.
Sinon, je suis également sur mon compte LinkedIn où je peux également où je partage quand j'ai des nouveautés. Donc ouais, principalement sur Facebook aussi, il y a le compte pareil Millionnaire Next Door FR. Donc voilà, sinon il y a mon adresse email qui apparaît dans le début du livre pour les personnes qui veulent également me contacter s'ils ont des questions ou s'ils souhaitent faire un échange. J'adore faire les échanges avec les lecteurs. Donc voilà, je suis joignable très facilement. Donc Instagram, LinkedIn, Facebook ou mon adresse email pour les personnes qui ont le livre. Donc voilà, le livre est dispo et commandable à la FNAC sur deux sites, Cultura, et dans toutes les librairies. On peut aller dans n'importe quelle librairie, juste vous donner le code ISBN, il procède à la commande, et puis moi je fais un envoi hyper rapide et personnalisé, l'envoi est soigné, et voilà. Il y a même un petit mot que tu as dû recevoir qui va avec.
Exactement, mais je voulais pas tout dire non plus, on va laisser un peu les surprises pour celles et ceux qui auront le plaisir de le découvrir.
Ok, ça marche.
Super, super. Bah, écoute, mille merci Bassem pour ton temps.
Merci beaucoup.
Pour ce temps bien précieux et tous les bons tips que tu as pu nous donner.
Je t'en prie.
Je te dis à très 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 vite et salut, merci à tous et à toutes. Ciao, ciao.
Merci infiniment.
Et nous voilà arrivés à la fin de cette émission et je te remercie pleinement pour ton écoute attentive. Alors si tu as écouté jusqu'ici, c'est que tu fais partie de la Dream Team de la Bonne Fortune. Et vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre chaque semaine, alors encore merci du fond du cœur. Alors si tu apprécies le podcast de la Bonne Fortune, je le répète à chaque fois pour les nouveaux abonnés, c'est très simple, il y a deux belles façons de me le témoigner. La première, c'est de prendre quelques secondes pour laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme de ton choix, et notamment Apple Podcast, car tu le sais, c'est ce qui aide pour le référencement de l'émission. Et la deuxième façon, c'est de le partager à tes proches, à tes amis autour de toi. Je suis sûr que tu connais deux ou trois personnes qui seront intéressées par ce contenu. Et comme on le sait, la distance entre les rêves et la réalité s'appelle l'action. Moi, je te retrouve très très vite pour un nouvel épisode de La Bonne Fortune. Ciao !